Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf. Il y a un an, la France vibrait pour la Ryder Cup. Un an après, une page se tourne. Que reste-t-il de cette Ryder? Comment le golf national s'est remis de l'ouragan? Quel visage aura l'Open de France cette année? On en débat. Et pour animer avec moi cette émission, Martin Coulon et Benjamin Cadieu du Journal du Golf. Salut messieurs.
Salut JP, salut,
salut tout le monde.
Allez, la Ryder, c'était il y a un an et ça ressemblait à ça. Messieurs, je vous regarde.
Ouais, j'en ai encore la gigite.
Et vous êtes beau.
T'en as encore la quoi?
La gigite.
La gigite.
Est-ce que forcément on vibre en réécoutant ces images, ces sons, en repensant à ces images de cette grande tribune du départ du trou numéro 1 au Golf National? Cette Ryder, c'était fabuleux. On est forcément un bras nostalgique, Benjamin.
Oui, on a hâte d'être à l'Open de France pour revivre ça.
Ah bah grave.
Non, je plaisante. Non, c'était chouette, c'était unique. Et voir que la France a pu proposer peut-être l'une des plus belles Ryder Cup de l'histoire, pas au niveau du scénario en tout cas, mais au niveau de l'organisation, elle était parfaite cette Ryder.
Mais c'est vrai que surtout quand on retourne au National, on se dit, mais c'est quand même dingue, il y a eu la Ryder sur ce parcours, quoi. On a vu 70 000, voire plus que ça de personnes par jour sur ce parcours, c'est ahurissant.
Ce qui est presque un peu bizarre, c'est que tu as l'impression que ça a eu lieu, mais que ça n'a pas eu lieu, que c'est passé tellement vite, mais comme toutes les Ryder.
C'était un doux rêve au final, c'était un.
Non, c'était pas un doux rêve, puisqu'on l'a bien vécu, qu'on l'a touché,
on l'a attendu tellement de temps.
Puis on l'a beaucoup attendu, voilà, et puis ça s'est tellement bien passé. Je veux dire, il y a presque en plus pas vraiment eu match d'un point de vue sportif, puisque les États-Unis étaient un peu en dedans, et puis il y avait des petits soucis d'équipe, mais ça, on n'y reviendra pas. Mais t'as presque l'impression que c'était un peu irréel, quoi. Déjà, à l'époque, c'était déjà complètement irréel quand on le vivait. Et là, on se dit, ça fait déjà un an, au jour
ça
pour
passe
jour,
vite,
quasiment.
Ça passe très vite.
Ça passe pas très vite, ça passe méchamment très vite.
C'est passé comme une finale de 100 mètres des JO, on attend ça pendant 4 ans, voire plus. Et puis, le temps qu'on rouvre les yeux, c'est terminé. Quoi.
Ouais, c'était assez fabuleux. Et c'est vrai que revenir au National, je suppose que vous êtes revenu sur ce parcours de l'Albatros, il y a des... Voilà, c'est tout simplement dingue de se dire qu'il y a eu une Ryder sur ce parcours, quoi. C'est...
Ouais, je l'ai joué récemment et quand on repasse à côté, c'est le trou numéro 13 où Rory McIlroy tape son coup. Ouais. Vous savez, où il avait la balle sur le bord de l'obstacle d'eau, il avait dû jouer les cuisses complètement pliées pour finalement toucher le green.
Un
coup quasiment impossible pour quelqu'un qui a une musculature normale, mais pour Rory, ça passait. Qu'est-ce qu'on a fait? J'étais avec des collègues, des confrères anglais. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé mettre une balle sur le bord de l'obstacle.
Et vous avez rejoué le coup?
On a essayé de rejouer le coup.
Il y en a deux qui sont tombés.
Il y en a deux qui sont tombés à l'eau, deux autres qui ont fait une socket, quoi. Mais non, mais voilà, on a créé un peu comme quand on a la chance de jouer des parcours comme Augusta. On s'est créé des souvenirs pour toute la France sur ce parcours et on a ça en tête, des coups mythiques, les potes de John Rahm, ce qu'a fait Mollywood le premier jour pour lancer l'équipe européenne. On peut aller jouer le Natio et aller revivre ces moments-là. Quoi.
Ouais, c'est pour l'éternité, comme on dit, Benjamin.
Complètement.
Martin, vous êtes retourné sur le Golf National. Il y a des choses qui vous reviennent en tête.
Il joue au golf une fois par an maintenant. Ouais. Martin,
deux, donc ça va.
Et uniquement au programme.
Pour gagner des trucs, tu me connais. J'y suis retourné, évidemment. Mais moi c'est marrant, c'est pas trop comme Ben. Moi j'ai essayé de me souvenir justement de quelques coups qui m'auraient marqué là-dedans. J'en ai pas tant que ça en fait. Moi c'est plus l'ambiance, c'est plus l'atmosphère, c'était plus cette énorme tribune, c'est plus
cette arène du 1 et 2.
Cette arène du 1 et 2 qui se répondait, c'est plus ces moments-là de se dire ouais, quand on arrive qu'il y a plus grand-chose voire plus rien, que c'est redevenu le golf national classique sans grande tribune, sans 70 000 personnes qui hurlent Europe. Se dire que ouais, c'est encore une fois un peu irréel, quoi, un peu c'est une émotion plus comme ça, c'est plus une espèce de nostalgie de ce moment-là un peu fou, quoi, mais même complètement fou, quoi.
En tout cas moi j'ai rejoué l'aigle et au départ du 3 aucune émotion. Bref, donc on est retourné justement voir le greenkeeper du golf national, le nouveau greenkeeper Lucas Pierret, et je sais pas si vous vous souvenez sans doute, hein, mais au départ du 1 il y avait un grand panneau avec un grand logo. Justement, on lui a demandé ce qu'il est advenir de ce panneau à Lucas Pierret.
Là, je pense que c'est ses derniers moments, hein, je pense. Là, il vit ses dernières semaines. Hein. On va l'enlever pour l'Open de France et je pense pas qu'on le remettra après parce qu'il a déjà bien vécu. Donc, ça restera un héritage, bien sûr. Hein. Il y a plein de choses qu'on va garder de ça, mais je pense que aussi c'est important pour nous de passer à autre chose. Hein, de passer à autre chose. Si on reste, c'est important de se remotiver et de, de refaire les choses toujours bien, mais voilà, maintenant on prépare plus la Ryder, donc
d'autres projets, quoi.
Voilà, je pense que c'est bien de passer à la suite. Et il y en a plein d'autres qui arrivent, donc hein, championnat du monde amateur, les Jeux Olympiques. Je pense qu'on n'est pas à court de projet, puis je pense qu'il y aura peut-être encore d'autres surprises dans les années qui viennent.
Alors Lucas Pierri le dit, hein, c'est important de passer à autre chose, de tourner la page.
Vaut mieux,
c'est exactement ça. C'est faut pas rester dans le passé. Et, même si on sait qu'une Ryder Cup, c'est pas de sitôt qu'on en reverra une en France et au national. Repasser à autre chose rapidement.
Vaut mieux surtout s'en servir comme d'un vrai tremplin et d'une espèce de base solide pour dire voilà, cet endroit-là est capable d'accueillir des compétitions de cette envergure-là. Et c'est pas pour rien que derrière il y aura les JO en 2024, évidemment, qu'il y aura les championnats du monde amateur dans pas si longtemps. Et pourquoi pas réimaginer une Ryder ou même d'autres, pourquoi pas une Solheim, tiens, pourquoi pas ce genre d'épreuve-là. Donc c'est plus le côté se rendre compte que cet endroit-là est, enfin, se rendre compte pour de vrai, parce qu'on s'en doutait, mais on le savait. Mais là, on le sait, que c'est fait pour accueillir ce genre d'énormes compétitions. Et ça c'est cool. Et évidemment qu'il faut tourner la page, sinon tu fais quoi après ?
Ouais, moi, je serais un peu triste de voir les vestiges de la Ryder Cup disparaître, parce que le premier truc...
Ça ne va pas disparaître totalement.
Pas complètement. En tout cas, si le panneau du 1, c'est là où on allait se prendre en photo. C'est là où on aime aller se prendre en photo aussi avec les potes avec qui on joue, avec qui on peut jouer le Natio. Donc moi j'aime bien, je serais toujours un peu nostalgique de ça. Des grandes tribunes, on avait.
C'est un peu vintage, Benjamin.
Bah ouais, puis quand on a.
Ouais, c'est vrai, je trouve ça dommage qu'ils aient pas laissé cette grande tribune. Hein. Je trouvais que ça habillait plutôt pas mal l'endroit, moi.
Ils la remettront pas pour l'Open de France, je crois.
Ah, c'était en pourparler, mais finalement non.
Et en fait non, il y avait pas assez de barres de métal.
Allez, on reste au golf national et je vous propose d'écouter à présent Paul Hermitage, le directeur du golf national. Alors, c'est une interview qu'on a enregistrée ce matin et justement, lui aussi, il va nous parler de l'impact de la Ryder Cup sur le site du golf national. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors Paul, on l'évoque depuis le début de cette émission. Évidemment, il y a un an, la France et le golf national vivaient une aventure extraordinaire avec cette Ryder Cup. Question toute simple pour démarrer, qu'est-ce qui vous reste, vous, de cette Ryder Cup quand vous y repensez?
Alors, effectivement, on l'a vécu de manière comme un golfeur qui est passionné de golf et qui a vibré comme tout le monde avec le résultat et le jeu spectaculaire. Mais aussi, on le vit de l'intérieur, ayant, c'est vrai, consacré énormément d'énergie, de temps. Dans ce que je retiens, c'est une aventure humaine, incroyable, avec les équipes du golf national, mais aussi les équipes de la fédération et autour de Pascal Grisot qui a mené toutes les équipes d'une manière fantastique pour nous amener vers le succès que c'était. Voilà.
C'était l'un des, on va dire, sommets de votre carrière, si on peut l'évoquer comme ça, comme un sportif.
Clairement. J'ai eu beaucoup de belles aventures professionnelles, entrepreneuriales, de création et développement de différentes marques, et puis aussi diriger. Des golfs avec toujours la volonté de bien servir et bien faire avec des équipes fantastiques pendant mes 25 ans de carrière. Mais effectivement, il y a rien qui peut comparer à l'organisation de ça.
Martin, c'est...
Ouais, Paul, comment ça se passe l'après Ryder Cup quand le... Tout le barnum, ça met quelques mois à s'en aller, puisqu'il y avait beaucoup de tribunes et beaucoup de choses à démonter. Mais comment on vit cette espèce de d'après? Il y a une petite forme
est-ce que de c'est déprime. La gueule est-ce que c'est la gueule de bois? Ouais, c'est ça.
Alors c'est sympa comme question, parce que effectivement c'est quelque chose que je retiens de manière. Je pense que mon souvenir le plus clair et limpide, c'est le lundi, le lendemain de la fin, parce que de la fin de l'événement, hein, bien sûr, parce que au cas où qu'il y avait un bis Celtic Manor avec une fin le lundi, parce que les matchs n'ont pas pu terminer le dimanche, Ryder Cup Europe et nos équipes, on prévoit strictement rien, parce que pas de démontage, il n'y a rien de prévu. Donc en fait, le golf national le lundi, c'était complètement un ghost town, c'était une ville fantôme, Moi, je suis monté à mon bureau vers 9h du matin et il y avait mais vraiment mais personne. Quand vous avez 70 000 spectateurs le dimanche, le bruit, plus toute l'action, et puis un souci permanent à la minute de ce qui se passe sur le site, le lundi, c'était choquant. Et puis vers 10h30, est rentré dans le clubhouse Thomas Bjørn avec le directeur des médias de l'European Tour pour faire quelques images pour Sky et Golf Channel. Et c'est les seules personnes qu'on a vues toute la journée. Voilà, donc ça reste dans mon mémoire vif en étant un super souvenir. J'ai pu passer un moment très calme et très sympa avec le capitaine seul, quoi. C'était bien.
Alors justement, Paul, on a écouté le greenkeeper, le nouveau greenkeeper Lucas Pierret, qui nous on parlait justement sur ce départ du trou numéro 1, ce panneau Ryder Cup qui va être retiré forcément pour l'Open de France et qui ne va plus être remis. La volonté de passer à autre chose, c'était aussi votre sentiment, c'est aussi votre cas. Voilà, la Ryder, c'était une belle page de l'histoire du golf national. Maintenant, il faut en réécrire une nouvelle.
Oui, tout à fait. Je pense aussi. Mais alors, par contre, il restera quand même du memorabilia sur le site. Hein. Il restera quand même quelques images. On a certaines choses qu'on n'a pas encore sorties parce que on a passé une année en pleine mutation sur le golf national. Il y a beaucoup de choses qui se passent quasiment quotidiennement. Donc, on n'a pas pu sortir tout. Pour que quand même nos visiteurs du monde entier, on va dire, puissent quand même prendre des selfies, vivre l'expérience. Ils viennent un peu pour ça aussi. Donc, il y aura toujours des souvenirs de la Ryder Cup un peu à droite et à gauche.
Conserver cet héritage, c'est ça ?
Absolument, c'est obligatoire. Je pense qu'on fera fausse route, une erreur si on ne le gardait pas. Les gens, ils n'ont pas vécu de l'intérieur, mais il faut garder ça dans le souvenir. Ça fait partie maintenant de l'histoire de la Fédération française de golf et du golf national. Mais effectivement, on a beaucoup d'autres choses à regarder devant nous. Et ça commence déjà maintenant.
Alors, vous parlez de cet héritage qui reste. On pense notamment à cette petite zone d'approche ou zone d'entraînement juste à côté du départ du trou numéro 1 de l'Aigle, avec, on s'en souvient, hein, cette zone avec toutes les barrières blanches, les noms des joueurs de Ryder Cup. Ça, c'est super sympa quand on vient au Golf National, on s'entraîne là où s'entraînaient Tiger Woods, Phil Mickelson, Tommy Fleetwood. C'est quelque chose de très sympa. Ça, c'est quelque chose que vous allez conserver, vous nous le confirmez.
Absolument. Cette zone-là va rester parce que non seulement c'est comme vous dites, on est imprégné un peu de l'ambiance, les noms sont là, les plaques vont rester, mais aussi c'est très utile cette zone pour faire patienter un petit dernier échauffement pour les joueurs. Donc en fait, ça a double utilité pour nous. Donc ça, c'est clair que ça va rester. Et puis, je pense que là, on va retirer pas mal de communication en plus à l'intérieur du clubhouse pour l'Open de France, notamment dans le party hall VIP, si vous connaissez le golf national, où était basé, c'était le camp des États-Unis. Donc c'est très marqué rouge États-Unis. Tout ça, ça va être retiré la semaine prochaine. En vue de
l'Open,
de l'accueil, voilà, en vue de l'Open. Mais on est en train de réfléchir aussi à faire une fresque de manière assez importante pendant une année avec ces souvenirs dont on en parle.
Martin ?
Ouais, on est en train de parler évidemment de ce qui se passe après. Et qu'est-ce qui se passe concrètement après la Ryder Cup ? Quel est l'effet qu'elle a eu sur le golf national, je sais pas, sur sa fréquentation, sur son intérêt un peu plus large que seulement en France et peut-être même plus largement qu'en Europe.
Ouais, en gros, est-ce que c'est devenu une destination, un golf à faire pour les étrangers qui viennent dans la région parisienne et même en France?
Absolument, clairement oui. Là où je me trouve, je suis en train de vous parler, je suis en déplacement aux États-Unis. Je parle beaucoup avec des tour opérateurs ou aussi des fans, des personnes à qui, par exemple, on a pensé après la victoire écrasante de l'équipe européenne que les Américains nous boudraient. Bah, c'est tout le contraire, en fait. C'est, c'est des vrais fans de golf qui ont vu à la télévision un golf absolument splendide. C'était préparé d'une manière fantastique. Ça en a jeté aux yeux à la télévision du monde entier. Donc, ça attire de tous les côtés. Donc, oui, effectivement, pour la fréquentation de l'Albatros au Golfe National, on est en croissance, on est dans nos objectifs, on est bien, mais je vais plus loin là-dessus. C'est que c'est évident que quelqu'un qui fait 10 000 km pour jouer un parcours Ryder Cup comme ça ne va pas juste venir pour faire 18 trous et puis repartir. Donc il y a une notion forte de création de richesse pour l'Île-de-France, pour le pays en entier, parce que les tours opérateurs maintenant prévoient quand même des circuits pour venir jouer chez nous un ou deux jours, mais après ils vont aller jouer d'autres parcours de renom, ou même en Normandie, c'est très populaire avec les Américains, par exemple, qui veulent aller voir les plages de débarquement, etc. Donc, oui, il y a une forte croissance du tourisme golfique.
Vous avez une idée du pourcentage d'augmentation de la fréquentation de l'Albatros? C'est quoi? C'est 20% de plus que l'année d'avant? C'est 50% de plus? Comment on peut...
Alors, on ne va pas vraiment comparer par rapport à N-1, par rapport à l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'on a eu certaines fermetures, septembre, tout le mois de septembre, par exemple, où il y avait zéro client sur le parcours. Donc, c'est difficile de comparer des années où il y a des fermetures. Par contre... Et aussi, c'est difficile de comparer, par exemple, le mois d'août de cette année avec l'année dernière, ou en août 2018, avec l'approche de la fermeture de l'Albatros, on a eu un influx de joueurs absolument incroyable. Donc, on n'a jamais fait un mois d'août aussi fort qu'en 2018, qu'on n'a pas pu copier et refaire en 2019. Donc, c'est difficile de comparer en année. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 4 ans, depuis que Glen Eagles, avec la Ryder Cup en 2014, s'est terminée, on a eu une croissance, je dirais, forte et rapide du nombre de joueurs venant de l'extérieur pour le golf national. Je peux vous donner un chiffre qui est assez parlant, par exemple, au niveau de la fréquentation des tour opérateurs, c'est-à-dire que des gens qui viennent via une agence de voyage ou via un circuit organisé, nous sommes x12 en volume par rapport à 2015.
X12, c'est énorme. Merci beaucoup, Paul Hermitage, de
plaisir.
Vous avoir eu.
Merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt, oui.
Au revoir.
Merci.
Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf. Allez, après le national, on va parler de l'Open de France. Ben, Benjamin, vous êtes rassuré d'entendre qu'il y aura quand même des vestiges de la Ryder Cup
Complètement, je suis ravi.
Vous êtes ravi?
Non, là, je suis...
Et rassuré.
Vous êtes refait?
Refait.
Ah, je te sens refait, rassuré, là, ça va beaucoup mieux, c'est sûr. Non, mais au-delà de la blague, c'est quand même vachement important, et je suis un peu d'accord avec Ben, de garder cet esprit, voilà, héritage, c'est quand même pas rien.
Ouais, le parcours a été construit pour, on l'a voulu, on l'a payé, on l'a eu.
Et puis surtout les gens qui
viennent jouer. Tu l'as eu, donc faut, voilà.
Les joueurs qui viennent, les joueurs étrangers en particulier, qui viennent jouer ce parcours de Ryder Cup, ils veulent aussi voir, voilà, le site et des traces un peu de... Des traces de ce passage de la Ryder Cup.
Qu'est-ce qui Benjamin, pourquoi c'est
compliqué, je rigole pour rien du
tout. C'est les traces qui sont drôles, mais c'est
exactement.
Pas grave.
Exactement.
Ça n'a pas laissé tant de traces que ça. Va.
Allez, on va justement voir maintenant ce qui s'est passé dans les clubs de golf après cette Ryder Cup. On va joindre Rémi Bedu pour connaître un peu l'impact de cette Ryder. Est-ce que cette Ryder a laissé des traces? On l'appelle Rémi. Bonjour Rémi.
Bonjour à tous.
Alors Rémi, déjà, est-ce que en vous réveillant ce matin, vous êtes dit mince, la Ryder c'était il y a un an?
C'est une date qui a marqué la vie d'un golfeur, surtout quand on a été présent sur l'événement. Et le fait d'en parler, j'ai encore des étoiles dans les yeux. C'était une vraie réussite. Tout était réuni pour que ça marche. Hein. On a eu un parcours fantastique, l'organisation géniale. Une chance extraordinaire, ça a été la présence de Tiger. Moi, je l'ai suivi sur les tours d'entraînement. Le voir taper comme ça de près, c'était génial. Et puis, évidemment, la cerise sur le gâteau, la victoire européenne, tout ça avec le soleil et puis une ambiance formidable. Oui, oui.
Alors,
j'y pensais encore.
Alors là, on essaye un peu de voir un peu l'impact sur les pratiquants et notamment au golf de Montgriffon. Est-ce que vous avez vu un effet après Ryder dans votre golf?
Ah, alors là, je vais être un petit peu plus négatif parce que pour moi, il n'y a pas eu l'effet escompté de la Ryder Cup dans les clubs.
Vous aviez un espoir, vous aviez l'espoir que justement cette Ryder amène des gens au golf, amène des pratiquants en plus?
Oui, on peut toujours, on a toujours l'espoir parce qu'on se dit qu'un tel événement aura sûrement des conséquences.
Effets positifs,
Mais en fait, pas du tout. Et moi, j'y vois deux choses. Un, c'est le désintérêt complet des chaînes de télé publique. Donc, les seuls qui ont pu profiter de la Ryder Cup, s'ils ne sont pas venus, bien, c'était les déjà golfeurs et les abonnés de Canal+. Mais sinon, on n'a eu aucune image. Et puis, la deuxième chose, c'est que la population des non-golfeurs n'a pas été concernée parce que c'était un événement de déjà golfeurs, j'allais dire. C'est un événement élitiste parce que les gens ne comprenaient pas la formule de jeu.
On est resté dans l'entre-soi, Rémi, c'est ça ?
Exactement, exactement. L'entre-soi, c'est une très bonne expression, parce que le foursome, le greensome, le match-play, ça parle pas aux gens. Donc voilà,
Il y a eu un manque de vulgarisation, selon vous ?
Oui. Ouais. Et je pense, puisque vous me parlez des retombées de la Ryder Cup, je pense qu'on a beaucoup plus de retombées actuellement avec les événements de communication de la FFG qui, avec des structures gonflables, vont sur les places des villages.
Fédération française
et là,
de golf.
Il faut saluer le dynamisme d'Aurélien Didier qui est à l'origine de cette caravane de la FFG. Parce que ça, on va au contact des gens avec des structures gonflables, avec des pros de golf.
Mais pardon, Rémi.
Ça marche. Ça marche.
Je me fais un peu l'avocat de la Fédé, alors que c'est pas du tout mon rôle, mais bon, ils sont pas au téléphone avec nous, donc on va quand même essayer de rétablir le truc. Ils ont quand même aussi fait. Il y avait un Ryder Cup Tour à travers la France, tout un petit train qui venait.
Et il me semble qu'il y avait un village aussi pendant la compétition.
Il y a quand même eu des opérations de sensibilisation auprès d'un public qui n'était pas forcément aussi initié que nous on peut l'être évidemment, ou que les gens, comme tu le dis, qui ont accès à Canal+ ou à Golf+, l'étaient. Donc il y a quand même eu des choses de fait. C'est pas aussi négatif ou pas aussi drastique que ça.
Peut-être que c'est moins vu dans les clubs aussi, Martin.
C'est ça que j'allais dire. Ce que je trouve un petit peu dommageable, c'est que ces efforts-là n'ont pas été suivis d'effet.
Ouais, et je pense qu'il y a deux choses. Il y a faire connaître le golf et changer l'image qu'on a du golf, parce qu'à chaque fois qu'on voit du golf à la télé, dans les magazines, même dans les publicités, c'est encore quelqu'un de vieux qui a de l'argent, qui a un pantalon à carreaux. Donc cette image du golfeur, elle est toujours pas modifiée, toujours pas changée. Ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que une fois qu'on a convaincu le golfeur, qu'on lui a donné l'envie, il faut absolument que l'accueil dans les golfs, les produits qu'on va proposer à ces nouveaux golfeurs, les structures, elles doivent être adaptées avec les fameuses structures compactes qu'on avait promis. Ouais, voilà, ça c'est indispensable. Et puis la pédagogie. Et là, les pros maintenant sont vraiment formés à une pédagogie du plaisir, le fun. On n'hésite pas à mettre le tee pour que la balle vole plus facilement. On va sur le parcours rapidement pour montrer ce que c'est que le golf. Il faut arrêter de rester des heures et des heures au practice. Et puis avec des départs avancés.
Pour casser un peu les barrières d'un sport inaccessible et compliqué au final pour le débutant.
Exactement. Et on y arrivera aussi en réfléchissant à ce qui nous fait perdre des golfeurs. Parce qu'on a des nouveaux golfeurs. On arrive à les faire venir dans les clubs, on arrive à leur faire faire quelques mois de golf. Et puis là où on les perd, c'est parce que ça demande trop de temps. Donc là, il faut vraiment qu'on se réunisse autour d'une table tous ensemble, tous les acteurs du golf, et se dire, ok, ce golf qui est chronophage et qui nous fait perdre beaucoup de golfeurs, comment on peut trouver des solutions alternatives?
Rémi, je rebondis pour rester dans le débat sur la Ryder. À votre avis, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus pendant cette Ryder Cup ou avant cette Ryder Cup pour qu'il y ait des vrais impacts dans les clubs?
Je pense que déjà, il fallait des images. Il fallait profiter de la Ryder Cup pour avoir des images sur les chaînes publiques et puis des commentaires qui auraient été pédagogiques et qui auraient attiré des nouveaux golfeurs. Et puis après, les nouvelles structures compactes et puis réfléchir à comment on peut faire jouer ces nouveaux golfeurs sans leur faire perdre une journée, parce que ça…
Et sans leur faire peur, surtout.
Ouais, voilà, ouais. Et puis, je crois que c'est pas la Ryder Cup qui va nous ramener des nouveaux golfeurs. Faut arrêter de se voiler la face avec ça. Je pense que ce qui va nous ramener…
C'est quand même ce qu'on nous a vendu, hein, Rémi, à la base. Hein.
Oui,
on est d'accord.
Mais je pense que ce qui va nous faire passer le cap et nous ramener des nouveaux golfeurs, c'est un champion. Il nous faut un champion. Donc, il nous faut un Yannick Noah, un Teddy Riner au judo, ou alors une équipe de France de handball qui gagne. Ça, pour moi, on en revient toujours à ça.
Ça marche. Merci beaucoup. On y reviendra justement dans ce podcast sur l'importance d'avoir un champion. Merci beaucoup, Rémi, pour
tout. À bientôt.
Salut. Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. On évoque toujours l'après-Ryder et forcément, on ouvre notre volet Open de France, passé de Rolex Series à l'un des tournois les plus faiblement dotés du Tour. Messieurs, je vous propose d'écouter tout de suite Nicolas Colsarts, que vous avez rencontré à Wentworth, Benjamin Cadieu, la semaine dernière. Il a un avis bien tranché sur la question avec son franc-parler habituel. On l'écoute.
Ouais, vu de l'extérieur, on a évidemment l'impression que vous êtes un peu fait niquer. Hein. Ouais, ça risque d'être plus compliqué. Quoi. Bon, déjà, c'est loin d'être un parcours simple, même en juin. Moi, je pense que c'est peut-être quand même plus facile à jouer quand c'est un peu humide que quand c'est sec. Vu que c'est quand même pure target, donc si on a du temps correct avec des fairways un peu plus tendres qu'on a l'habitude de jouer au mois de juin, je pense que ça va être un peu plus jouable. Maintenant, évidemment, il faut croisons les doigts pour qu'on ait du temps un peu correct, parce qu'on sait que ça peut être, bon et mouf, quoi, malheureusement. Ouais.
Bon, il nous fait bien marrer, Nicolas, mais est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'on s'est fait avoir sur cette Open de France ? On a tous un avis sur la question, évidemment. Martin, vous...
C'est qui on ? Déjà, un premier bout de réponse. C'est qui on ? C'est toi, c'est moi, c'est...
Oui, c'est les licenciés, le golf français.
Les instances fédérales.
La réaction, quand on a eu cette date en octobre, c'était qu'est-ce qui nous arrive, quoi ?
Bah, un mois trop tard.
On va pas revenir sur cette descente infernale et sur les tenants et les aboutissants de ce truc-là. Voilà, j'ai presque envie de dire, c'est toujours l'image que j'ai eu l'impression d'avoir de toutes les Ryder Cup qu'on a pu vivre. T'as toujours l'impression que c'est une espèce de grosse soucoupe volante ou de grand circus qui s'en va, qui prend tout ce qu'il a à prendre et qui quand il s'en va, laisse un peu une terre brûlée derrière lui. Bon, on a fait une première partie en disant qu'il y avait quand même deux trois enseignements assez positifs et deux trois trucs assez intéressants qui allaient se passer sur le parcours. C'est sûr que le volet Open de France, c'est pas le plus positif. Heureusement, j'ai presque envie de te dire heureusement qu'il y a quand même 2-3 sponsors qui ont mis à la
Camundi
est là pour sauver
là parce que sans là je pense qu'on fait pas de la, on fait pas du, du on fait pas du buzz pour faire du buzz. On était à deux doigts de ne pas avoir d'Open de France, voilà, tout simplement. Donc il faut aussi remercier des gens qui mouillent le maillot alors que les choses n'étaient pas forcément à la faveur de l'Open de France cette année.
Benjamin, vous vouliez rebondir?
Oui, on a parlé presque 10 minutes avec Nicolas Colsart, qui est belge, mais qui est attaché à cet Open de France, qui va jouer pour la 16e ou 17e fois cette année. Mais c'est le problème, c'est que c'est une histoire de business avant tout. Évidemment que le Golf National est l'un des meilleurs, sinon le meilleur parcours de la race, que c'est un tournoi historique.
Plébiscité depuis des années, oui, par l'ensemble des joueurs. Et
même les joueurs le disaient après la Ryder, voilà, que c'était un parcours fabuleux, fantastique.
Mais pour en avoir parlé, que Chubby Chandler, qui est promoteur de tournoi et agent de joueurs comme Lee Westwood, entre autres, il m'a dit, il a été un peu cynique, il a dit, c'est triste, mais vous n'avez pas d'argent, et sans argent, on n'a pas de golf professionnel de très haut niveau. Et il a dit, on en a parlé un petit peu, on en a reparlé un petit peu du Trophée Lancôme, notamment, parce qu'il était un très bel événement en France, à Saint-Nom-la-Bretèche, jusqu'en 2004, je crois.
Surtout qui a attiré de grands noms, il y avait des grands noms, il y avait des
voilà, Norman, après c'était un système,
Ballesteros, c'était Mickelson même.
Ça, Mickelson, je suis pas sûr, mais
c'était un tournoi IMG par contre à l'époque.
Voilà.
Si je dis pas de bêtises.
Et avec un système d'apparence fee, c'est-à-dire qu'on payait les joueurs pour qu'ils viennent. L'Open de France l'a fait un petit peu. Je crois que Rory McIlroy, il y a eu droit.
Mais alors, c'était pas vraiment des apparence fee au sens apparence fee, c'était des trucs.
Chubby Chandler m'a dit attention, il y avait des apparence fee à l'Open de France.
C'était... Ça, c'était le discours officiel des officiels.
Voilà.
Il y a du on et du off hein, toujours. Hein.
Bref, peut-être qu'il faudrait réfléchir à une nouvelle formule. Déjà, on le redit. Merci à Mundi et aux autres sponsors de faire vivre le tournoi pour cette année, essayer de trouver une autre date, peut-être avec, avec un champ réduit, pourquoi pas un Masters avec beaucoup moins de joueurs, 2-3 têtes d'affiche, 4-5 Français, et partir avec un budget de 2 millions et demi d'euros, vous faites un très beau Masters.
Vous en avez parlé aussi avec Alexander Lévy, qui lui parlait carrément d'avoir un événement type CV Trophy sur ce parcours, quoi.
Oui. Alors, ça n'a pas été un succès immense à Saint-Dans-la-Bretèche.
Le format de l'épreuve,
deux équipes en match play.
Vous pouvez faire le format que vous voulez. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas les meilleurs joueurs. C'est graduel. Un tournoi à 1,6 million, vous aurez un champ de joueurs qui vaut 1,6 million d'euros. Et après, mais même avec 7 millions, ce que Chubby Chandler disait, même avec 7 millions, il faudra quand même payer des stars comme Justin Rose pour qu'ils viennent. Donc toujours le même problème. Je pense qu'il faut vraiment se mettre. Il faut arrêter avec ce tabou d'apparence fille qu'il y a eu pendant des années à l'époque ASO. Pendant qu'ASO organisait l'Open de France, on ne paye pas les joueurs pour qu'ils viennent. On a un super parcours, une belle ville, ça suffit.
Mais quelque part, c'était bon, même s'il n'y avait pas d'appearance fee au sens propre du terme, et même si c'était d'autres
façons des arrangements
de
du joueur,
on a quand même eu. Enfin, j'ai l'impression de
Bubba Watson, Matt Couchard.
Mais t'as quand même eu une époque où t'as eu Adam Scott, Rory dans le même tournoi. Enfin, t'avais quand
on avait
même,
un bon était, tournoi.
Et on était à 3,5 millions d'euros.
On avait un bon tournoi niveau Munich, niveau BMW.
Après, Rory était pas quand il au tout début, il était pas le Rory qui était maintenant. Quoi,
ouais, c'était quand même la star du Tour européen. C'était pas le grand numéro 2 mondial qu'il est, quadruple vainqueur majeur et tout le tralala. Mais quand même, moi je me souviens d'être allé au Golf National en se disant hey, les gars, on va couvrir un Open de France. Il y a Adam Scott, Rory McIlroy, Lee Westwood, Martin Kamer qui était en chauffe, qui était quasiment numéro 1 mondial à l'époque. Ça avait de la gueule quoi.
Quand Nicolas Colsart l'évoque aussi également, et Rémi Bedu en a parlé, l'importance d'avoir un joueur français qui pèse, qui porte justement qui porte ce tournoi à bout de bras. On va l'écouter et on réagit après sur ce que va dire Nicolas Colsart.
Je pense pas que ça devrait être le rôle premier des joueurs français pour l'instant. Je pense que vous êtes toujours un peu en quête d'avoir ce porte-drapeau haut et fort et c'est comme ça. Il y en a plein qui jouent bien. Voilà, il y a Lorenzo qui fait une bonne saison. Alex était un peu en slump pour x et y raison. Il y a Hébert qui fait une belle saison. Ça manque peut-être un petit peu d'assurance et de carrure pour devoir porter la grosseur d'un événement comme celui-là, peut-être.
Alors, messieurs, les Français n'ont pas assez de poids au niveau du Tour européen pour porter un événement. On prend l'exemple d'un Sergio Garcia, mais bon, Sergio Garcia, c'est pas le même palmarès.
L'exemple d'Henrik Stenson avec le Scandinavian Masters, évidemment, ou de Tommy Fleetwood avec le British Masters.
Ou tous les joueurs british qui soutiennent le British Masters.
Forcément, derrière, vous avez une masse de population qui est passionnée, qui va vous suivre. Une population qui est bien plus grosse, évidemment, sur les îles britanniques. Qu'en France, mais c'est vrai que le niveau charisme et niveau carrière, on n'a pas d'Henrik Stenson, voire de Tommy Fleetwood en France. Et c'est vrai qu'il faut peut-être, comme dit Nicolas Colsart, chercher autre chose qu'un porte-drapeau pour l'instant. On l'a eu avec Victor Dubuisson, même si lui n'en voulait pas. Il avait une efficacité de porte-drapeau au niveau média et niveau
parce qu'il avait un charisme. Il avait un charisme.
Parce qu'il dégageait quelque chose, on le reconnaissait.
Et des résultats.
Évidemment, il était 14e mondial et avec des. Et avec toute la flamboyance qui allait avec. Donc non, effectivement, comme dit Nicolas Colsart, il faut chercher autre part qu'un porte-drapeau, puisque pour l'instant, on ne l'a pas, et je pense que ça ne va pas changer. Il faut de l'argent, malheureusement, il faut de l'argent et un lieu sexy. Quoi.
Allez, en tout cas, cette année, l'Open de France, ça se déroulera donc, fin octobre, et en tout cas, le parcours sera une nouvelle fois préparé aux petits oignons. En tout cas, Lucas Pierret, le greenkeeper, nous a rassurés sur l'état de santé du golf national. On l'écoute.
on va être dans, sur le même standard que la Ryder Cup. Bon, c'est sûr que ce sera un peu moins ferme que à la Ryder Cup, parce qu'à la Ryder Cup, on a eu 4 mois sans pluie. J'espère que là, on aura un peu de pluie. Après, s'il n'y a pas de pluie, ça peut être aussi ferme qu'à la Ryder Cup. Hein. Les roughs seront beaucoup moins pénibles que pour la Ryder Cup, parce que c'était un souhait de Thomas Björn que les roughs soient vraiment effrayants pour la Ryder Cup.
Ce qui a bien pénalisé l'équipe américaine.
Ce qui a bien pénalisé l'équipe américaine. Je pense que ce sera la grosse différence par rapport à la Ryder Cup, c'est la préparation des roughs. C'est pareil, on a fait le tour la semaine dernière avec l'European Tour. Au niveau de la hauteur de tonte des roughs, on ne sera pas du tout à ce qu'on était à la Ryder Cup. Hein. Là, si on se prenait l'année dernière à cette époque-ci, je lâchais la balle là, elle disparaissait. Quoi. Alors que là, la balle va être un peu posée. Après, en octobre, on peut avoir le brouillard, il y aura clairement du vent. Ici, on est sur l'Albatros, il y a du vent 320 jours par an. Et c'est vraiment un facteur qui est, surtout sur des trous comme 1, 2, 15, 18, vous les jouez avec du vent ou sans vent, c'est pas du tout les mêmes trous. Donc je pense qu'il y aura déjà assez de difficultés avec la météo et le parcours, tout le sable qu'il y a sur le parcours, il n'y a pas besoin forcément des roughs. Et justement, ça portera peut-être un peu plus, voilà, on va avoir les parcs 5 qui seront peut-être plus souvent attaqués en deux. Les joueurs sont peut-être un peu moins sur la défensive, on le verra après les premiers rounds.
Alors messieurs, justement, un parcours qui va être dans les standards de la Ryder, bon, avec 100 au rough, ça s'annonce...
J'ai presque envie de te dire, il n'y a pas de sujet, le parcours du Golf National, tu te doutes bien qu'il va être à la hauteur de ces standards maintenant habituels, c'est-à-dire des standards de très haut niveau européen, voire mondial. Donc moi, je suis pas, enfin, c'est pas ça du tout qui me turlupine, qui m'inquiète par rapport à cette édition de l'Open de France.
Qu'est-ce qui vous tue l'épine, Martin?
C'est le champ de joueurs, c'est la météo, c'est l'intérêt global qu'il va y avoir pour ce tournoi. Et clairement, je pense que ça va mettre...
C'est en pleine vacances scolaires aussi.
C'est en pleine vacances scolaires. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour les gamins qui pourront avoir un peu plus de temps pour venir.
Non, qu'on a écouté tout à l'heure, la billetterie marche pas mal pour l'instant. Donc bon,
ouais,
on verra.
Tant mieux. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de se dire que cet Open de France, avant de le revoir à un standard même, entre guillemets, moyen de ce qu'il a pu être, à savoir aux alentours de 3,5 millions d'euros, ça va mettre un an, deux ans, trois ans, quatre ans, parce qu'il faut redonner confiance aux sponsors qui vont investir dedans et qui vont se dire que si je mets 500 000, mais il faut que j'y retrouve quelque chose. Quoi. Donc, si c'est mi-octobre,
Benjamin. Ouais, j'en ai parlé pas mal avec les joueurs français. Donc, les têtes d'affiche françaises font le déplacement à 90%. Et Alex Lévy sera là, il a besoin de points. Romain Langasque, Mike Lorenzo Vera et Ben Hébert, qui sont le trio français de tête et qui sont très bien placés à la race et qui ont quatre très gros tournois après l'Open de France, devraient faire l'effort pour soutenir l'Open de France.
Vous dites quand même faire l'effort. Hein.
Faire l'effort, oui. Parce que
pour le coup, c'est pas un effort de soutenir l'Open de France, c'est un effort de venir jouer un tournoi à 1,6 million dans cette densité de calendrier là. Ils vont sortir de 2-3 gros tournois entre l'Italie, l'Espagne et compagnie, et le Portugal, enfin le Portugal c'est après, pardon, mais il y a surtout la finale des Rolex, les trois Final Series derrière, donc ça tombe vraiment à un moment du calendrier pour ces joueurs là en particulier qui sont un peu bien placés, qui est pas forcément très accessible, très facile quoi.
Ouais, et en parlant avec Romain Langasque donc il a entendu parler d'un changement de lieu possible pour les prochaines années. Je pense que ça serait une bonne idée. On a le Golf National qui a eu la Ryder, on a des souvenirs fantastiques là-bas, et peut-être que c'est le moment d'aller faire un petit tour en province.
Une année sur deux, pourquoi pas.
Pourquoi pas, ouais.
Ça marche, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et nous on se retrouve. Merci à Rémi d'ailleurs pour la technique. Merci beaucoup Rémi Rivière et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.